Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Vous écoutez Marmite FM sur le 88.4, votre émission du mercredi. Marmite fait son actu. Nous sommes ensemble en direct de 17h à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses invités. Aujourd'hui, malheureusement, pas d'invités, mais je vous rassure, une grosse partie de l'émission sera consacrée à un décryptage média sur le thème de l'islamophobie. Fiction ou réalité, voilà, ça vaudra le détour. Hein. Je vous conseille de rester bien branché sur le 88.4. Vos chroniques de Marmite fait son actu sont bien sûr au rendez-vous. Gaël avec l'actualité du cinéma Le Grenier à celle de Trappe. Chloé qui vous dira dans sa chronique Consommation responsable comment bien conserver ses aliments. Caroline est avec nous également dans sa chronique Actu Yvelinoise. Elle fera un focus sur le lancement du plan développement du numérique à Saint-Quentin-en-Yvelines, un plan qui s'est lancé le 11 octobre dernier. Le flash d'actu local, c'est avec Julia Mathieu aux alentours de 17h30. On commence cette émission en musique avec le groupe Delgrès. C'est un groupe de rock qui sera en concert au Prisme à Élancourt le 26 novembre prochain à 20h30. Le titre « Vivre sur la route » en featuring avec Jean-Louis Aubert, musique.
On tes chansons pour famille, au moins comme ça, comme ça.
Pour participer en direct à l'émission Marmite fait son actu, appelez-nous au 01 30 51 78 78.
Marmite fait son actu comme tous les mercredis de 17h à 18h, l'émission de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Et tout de suite, nous avons par téléphone Gaël Pinault pour sa chronique sur l'actualité du cinéma Le Grenier à sel.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Salut Gaël.
Salut Nouradine.
Ça va ?
Oui, ça va, merci.
Comme chaque semaine, tu nous présentes l'actualité et puis la programmation du cinéma Le Grenier à sel, on t'écoute.
Bah déjà, je vais revenir sur les petits événements de la semaine dernière. Vous vous souvenez qu'on avait Shaun le Mouton en avant-première, on avait Ina de Yard en partenariat avec Cameride. Voilà, mais surtout, on avait Apocalypse Now. Et j'en parle parce que on a eu un pépin technique. Donc, il y a les gens qui sont cassés le nez. On a quand même fait ce qu'il fallait pour prévenir. Mais au dernier moment, on n'a pas vu passer de film. Voilà, et ça, c'est les grandes déceptions liées au numérique, hein, les ordinateurs, les fichiers numériques. Quand ça veut pas, ça veut pas. Tout ça pour dire qu'on s'excuse et qu'on a passé beaucoup de temps pour essayer d'y arriver et ça n'a pas voulu marcher.
Est-ce que du coup vous allez proposer une séance de rattrapage ou pas du tout ?
Eh ben non, du coup on pourra pas le refaire, c'est encore plus dommage. C'est pour ça qu'on s'excuse vraiment parce que ça a bugué, on pouvait rien y faire et on le reverra pas au Grenier à sel. Alors, je vous parle des films de la semaine. Cette semaine, je vous propose deux visions du travail, du monde du travail. La première, c'est avec le film Au nom de la Terre. C'est un film de Édouard Bergeon avec Guillaume Canet, où c'est l'histoire donc de Pierre qui reprend une activité familiale, l'activité de la ferme agricole. Et 20 ans se passent, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi, bien sûr, mais évidemment, les dettes s'accumulent, les investissements deviennent dangereux, difficiles, et Pierre s'épuise peu à peu. C'est une histoire qui est tirée d'un peu de la biographie du réalisateur, de Pierre Bergeron, puisque son papa, c'est un peu l'histoire de son papa, en fait. Ouais. Et vous avez dû en entendre parler, ça s'appelle donc Au nom de la Terre. Je vous conseille vraiment de venir découvrir ça. On est vraiment dans l'actualité du monde agricole. C'est vraiment très intéressant, très bien filmé, très bien joué. Et la deuxième vision du monde du travail, c'est pour le film Ceux qui travaillent, de Antoine Rusbach avec Olivier Gourmet, où Olivier Gourmet incarne Franck, qui est cadre supérieur dans une compagnie de fret maritime. Il consacre toute sa vie, toute son énergie à son travail. Et un jour, face à une situation de crise qui a lieu au bord d'un cargo, il doit prendre une décision en urgence, et c'est le coup de son poste. Il se retrouve donc au chômage, à réfléchir sur ce qu'il a fait, à mentir à sa famille, à essayer de trouver du travail, toutes ces galères. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce film ? Il est soutenu à RSC, voilà. Et nous avons d'autres films cette semaine. Nous avons Ad Astra, le réalisateur James Gray nous emmène dans une aventure spatiale avec Brad Pitt et il nous livre par la même occasion une réflexion existentielle sur la solitude de l'humanité et tout ça dans un décor spatial avec évidemment de l'action, avec évidemment de la science-fiction puisque le personnage joué par Brad Pitt va aller au fond de la galère de notre galaxie pour aller retrouver son père incarné par Tommy Lee Jones. Vous découvrirez ça sur notre site internet cinemagreniersel.com.
Merci Gaël, voilà. Et rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, Noradine, la semaine prochaine.
Marmite fait son actu. Vous êtes en direct avec nous de 17h à 18h pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Et c'est parti pour la grosse partie de l'émission Décryptage Média.
Tout de suite, le décryptage média. C'est le décryptage média. Les analyses sont en cours. Décryptage média.
La chronique de Nouradine Pagne.
Alerte, alerte, sujet sensible. Alerte, sujet sensible. Voilà. Donc la plupart des Français ont dû déjà couper leur signal radio en m'entendant dire alerte, alerte, sujet sensible. Le sujet du jour, c'est l'islamophobie. Fiction ou réalité ? Alors la question d'abord que l'on peut se poser en parlant d'islamophobie, c'est quoi l'islamophobie ? Est-ce que c'est un terme qui désigne tous les propos et tous les comportements haineux face à l'islam et aux musulmans ? Ou est-ce que l'islamophobie, comme prétendent certains, c'est un étendard brandi par les islamistes pour éviter toute critique de la religion musulmane et ainsi laisser prospérer les islamistes qui voudraient déstabiliser la République ? Voilà, c'est un peu les deux sons de cloche qu'on a dans la société française actuellement. Alors, on va prendre d'abord la définition dans le Larousse. Dans le Larousse, lettre I, comme islamophobie, on a la définition suivante. Hostilité envers l'islam, virgule, les musulmans. Point. Donc, c'est soit l'hostilité envers l'islam ou envers les musulmans en général. Ça, c'est la définition du Larousse depuis 2006. La définition du Robert, maintenant. Pour le Robert, elle se définit comme l'hostilité envers l'islam et les musulmans. La petite particule « et » est intéressante. Voilà. Donc, entre l'islam et les musulmans. Donc, définition du Robert depuis 2016. Alors, on pourrait se dire, bon, l'Académie française n'a pas tranché encore sur la question. Ils en sont peut-être à la lettre B, hein, depuis 1792, je sais pas quand. Ils ont beaucoup de mal à mettre à jour à chaque fois leur définition. Mais bon, ils n'ont pas encore tranché l'Académie française sur cette question. Mais en tout cas, le Robert, le Larousse, la presse en général parle d'islamophobie quand elle fait référence à l'hostilité ou à des actes. Par exemple, je ne sais pas, quand il y a un tag qui est fait sur une mosquée, en général, on va parler d'actes islamophobes. Comment ça se passe à l'étranger ? Dans le Collins, par exemple, en anglais, qui est une des références des dictionnaires anglais, on a la définition suivante. Islamophobia, hatred or fear of Muslims or of their politics or culture. Du coup, je traduis pour ceux qui se sont arrêtés en sixième en anglais. La haine ou... C'est une vanne pourrie, ça, d'ailleurs. Mais bon, comme on est en direct, on peut pas couper. Bon, bref. C'est la haine ou la peur des musulmans ou de leur politique ou de leur culture. Voilà. Et enfin, un dernier exemple. Dans le dictionnaire d'Oxford, Oxford, hein, connu, hein, grande université qui a également un dictionnaire. Dislike of or prejudice against Islam or Muslims especially as a political force. Je traduis. Donc, la détestation ou les préjugés contre l'islam ou les musulmans, spécialement comme une force politique. D'accord ? Donc ça, il y a un consensus au niveau de l'ONU, de l'UNESCO, de plusieurs associations des droits de l'homme, des dictionnaires pour dire que l'islamophobie actuellement, même si dans sa terminologie, c'est-à-dire dans le sens premier de islamophobie, ça voudrait dire la peur de l'islam. La phobie, c'est voilà, quelque chose de l'ordre du psyché, de la psychologie. Voilà une peur maladive de l'islam en tant que religion. D'ailleurs, c'est ce que défendent certains. Eh bien, en tout cas, elle a pris ce sens-là en général. En tout cas, dans la langue française et en anglais ou encore dans la plupart des pays où il y a une presse, en tout cas, qui est assez développée, qui va parler d'islamophobie quand il y a des actes contre les musulmans. Et donc, comme je le disais, pour d'autres, principalement en France, l'islamophobie ne serait que la critique ou la peur ou la haine de l'islam en tant que religion en dehors des musulmans. D'ailleurs, les partisans de cette thèse-là sont plutôt situés à droite ou très à droite ou sont dans le camp de ceux qu'on appelle, j'aime pas ce terme, mais c'est un terme qui est utilisé, des laïcars. Voilà, ceux qui ont une conception très étriquée ou très réductrice de la laïcité. Voilà, et tous ces gens-là...
Et la laïcité mériterait aussi une définition.
Exactement, d'ailleurs. Mériterait aussi une définition. Alors, en général, ces gens-là nous disent on peut rien dire sur l'islam c'est un sujet tabou, etc., etc. Et du coup, on a des incohérences comme, par exemple, des gens qui disent qu'ils n'ont pas le droit de parler de l'islam, à qu'à chaque fois qu'ils parlent de l'islam, ils sont cloués au pilori, mais qui ont des émissions partout. Je cite quelqu'un qui s'appelle Eric Z, par exemple, qui avait une chronique sur RTL, qui a des chroniques régulières dans Le Figaro, qui est invité ces derniers temps sur C'est à vous, sur CNews, sur BFM TV, sur France Info, etc., etc., qui écrit des livres, qui est reçu pour ses livres, mais qui apparemment n'a pas le droit de parler d'islam. Voilà, donc il y a plein de personnes qui disent que c'est un tabou, qu'on ne peut pas en parler, mais les unes de la presse ces 10 dernières années tendraient à prouver le contraire. Bon, puisqu'on vient de vivre là, si vous avez un petit peu regardé suivi l'actualité, on vient de vivre près d'un mois où l'islam a été au cœur de l'actualité. Avec, 1, les débats anti-islam et anti-musulmans de la convention de la droite le 28 septembre dernier. On va y revenir. 2, l'attentat à la préfecture de Paris par un radicalisé musulman quelques jours plus tard, avec les sorties remarquées notamment du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Tiens, il est toujours là. 3. L'affaire de la femme voilée accompagnatrice scolaire sommée de dégager du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté par un élu Rassemblement National il y a quelques jours encore. Et les débats qui s'en sont suivis avec notamment une sortie remarquée de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. On va procéder tranquillement dans l'ordre. On commence donc avec cette première séquence où l'islam a été beaucoup cité, c'est la convention de la droite autour des amis de Mario Maréchal Le Pen. Oh, pardon, faut enlever Le Pen, parce qu'en fait, elle veut plus qu'on dise Le Pen, donc Mario Maréchal, le 28 septembre dernier, avec des interventions de plusieurs personnes, comme, Raphaël Antoven, qui est un philosophe de gauche qui est assez médiatique, qui était le seul, d'ailleurs, qui était un petit peu invité comme un contradicteur dans tous les invités. Il y avait Gilles William Gonladen qui intervient régulièrement dans les médias, qui est un avocat, président de l'amitié de l'association Amitié France-Israël notamment. Il y avait Éric Zemmour, qui a fait beaucoup parler, et d'autres personnes encore. Et évidemment, Marion Maréchal, qui était également là, qui a également fait un discours, ou Robert Ménard, maire de Béziers. Alors, Éric Zemmour, homme multicasquette, difficile à définir, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement? Alors, je ne vais pas passer à un extrait de Zemmour, parce qu'on l'a tellement entendu ces derniers temps que je vous épargne de réécouter encore tout ça, mais je vais vous le lire. Ce sera un peu plus sympa. Comme ça, c'est moi qui dis du Zemmour. Et voilà, je le dis avec un peu plus de style quand même. Bon, bref. Alors, il dit, je cite un petit florilège de ce qu'il a dit, « Les problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. » Voilà, les immigrés sont vus comme des colonisateurs. Il y a une islamisation de la rue. Voilà, la rue, hein, c'est pas certaines rues, hein, c'est la rue. Voilà. Et entre vivre, dit-il, et vivre ensemble, il faut choisir. Donc ça, il cite aussi Renaud Camus, adepte de la thèse, voilà, qu'on connaît, du grand remplacement de la population européenne et chrétienne blanche par une population immigrée et principalement musulmane. Parce que c'est connu, tous les immigrés sont des musulmans. Merci de votre réponse, chers amis. Une des choses qui a le plus marqué dans l'intervention d'Éric Zemmour, c'est la comparaison entre l'islam et le nazisme. Comparaison entre l'islam et le nazisme. Donc des musulmans qui mangent halal, par exemple, qui vont faire le ramadan, qui vont faire leur prière, c'est un peu comparable à des SS qui gazent des juifs dans des camps de concentration. On en arrive là.
T'as pas la citation exacte là-dessus ?
Non, j'ai pas la citation exacte. Il dit que l'islam, c'est comme le nazisme.
Bon, de toute façon, je pense que les auditeurs ont juste à se référer au Monde d'il y a quelques jours. Là. Je crois que c'était la semaine dernière.
C'est cité, ouais. C'est pas sorti de son contexte, hein, puisqu'il a été repris après en direct par son ami Eric Nolot sur Paris Première, qui lui a dit que justement ça c'était indigne, etc. Et il a pas nié ses propos, Il a juste expliqué. Voilà ce que ça voulait dire en disant c'est pas moi qui l'ai dit en premier. En 1930, Jean-Michel Dupont, il a dit ça. Donc vous voyez, c'est un des arguments d'Éric Zemmour. Mais bon, on va y revenir. Du coup, cette comparaison a beaucoup fait parler également. La plupart des médias un peu Sainte-Nitouche disent que c'est un scandale, qu'il a franchi une ligne rouge, que c'est indigne, comme dira son compère Éric Nolot sur Paris Première, mais qu'il continuera quand même de travailler avec Éric Zemmour pour lui apporter la contradiction. Voilà. Alors, Zemmour compare l'islam au nazisme. Il n'a pas dit les musulmans et les nazis. Il a dit l'islam et le nazisme. Sauf que, Soyons honnêtes, chers auditeurs, le nazisme est bien porté par quelqu'un. Le nazisme, ce n'est pas un livre qui vole tout seul dans les airs comme ça et qui dit des mots et qui prend des juifs, qui les met dans des camps de concentration. C'est bien des gens qui incarnaient le nazisme. Ça s'appelle les nazis. Donc l'islam est bien porté par des gens. Ce n'est pas un livre comme ça qui vole dans les airs, qui mange halal, qui fait la prière. C'est bien incarné par des gens. Ouais. Donc quand il fait la comparaison, même s'il va dire ou se défendre en disant non, c'est l'islam et sa doctrine et le nazisme,
l'idéologie.
Et ça n'a rien à voir avec les gens. Sauf que ces doctrines-là sont bien portées par des gens. D'accord ? Donc son discours est-il, quand il dit ça, islamophobe ou anti-musulman ? En gros, est-ce qu'on peut décorréler discours anti-religion musulmane et discours anti-musulman ? Voilà. En parlant de la religion en disant que la religion musulmane, vraiment, c'est pas terrible, et patati patata, ce que les gens ont tout à fait le droit de dire, surtout en France, et le fait de directement critiquer et du coup stigmatiser des musulmans qui auraient cette religion. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit dans cette convention de la droite, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a même des... Il y a même des fake news qui ont circulé sur ça, en disant que certaines personnes avaient mis en avant le nazisme en disant que c'était une bonne chose, que c'était moderne, alors que ce n'était pas tout à fait vrai. Donc, tu vois, même dans la critique de cette convention, il y a eu des abus, il y a eu des excès qui en fait, se révélaient être faux. Quand Éric Zemmour, par exemple, compare les immigrés à des colonisateurs, il donne la définition de ce qu'est un colonisateur. Il dit que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, un immigré, qui vient s'installer, mais qui n'a pas l'intention de prendre les us et coutumes du pays dans lequel il s'installe. En gros, si on parle de manière un peu triviale, c'est un mec qui vient du bled, du Sénégal, il vient s'installer en France, mais il veut toujours vivre à la sénégalaise. D'accord ? À la sénégalaise, bien dans les villages sénégalais, parce que bon, dans la capitale sénégalaise de Dakar, on vit comme on vit à Paris, dans les quartiers classiques de Paris. D'accord ? Et ça, à chaque fois qu'il a dit cette phrase dans les médias, c'est passé tranquillement. C'est-à-dire que pour Éric Zemmour, le fait que des colons soient allés en Algérie, par exemple, ou au Sénégal, ou je ne sais où, avec des armes, qu'ils aient tué des gens, qu'ils les aient forcés à l'esclavage ou à d'autres choses, c'est la même chose que des personnes qui viennent de l'étranger.
Qui les aient dénaturés aussi.
Oui, c'est ça exactement, qu'ils aient essayé, pour certains, quand on parlait d'évangélisation, mais de les convertir de force, de leur faire apprendre une culture qui n'était pas la leur, etc. C'est la même chose que des gens qui viennent, entre guillemets, je le dis encore de manière triviale, s'installer, un peu gratter des prestations familiales, puisque c'est ce qu'on dit d'eux, et qui viennent un peu vivre à l'africaine. Alors, je dis que l'Afrique, parce que voilà, pour beaucoup de Français, l'immigration, c'est que l'Afrique et c'est que des Noirs. D'ailleurs, on pourrait en revenir notamment sur la façon dont, à chaque fois qu'un article illustre avec une photo une question de l'immigration, vous ne verrez jamais un immigrant venu, je sais pas, d'Albanie ou de je ne sais où. À chaque fois qu'il y a une illustration, vous pourrez vérifier, quand ils veulent illustrer un article sur l'immigration, 99,9% du temps, c'est des Noirs qui mettent.
Une peau bronzée, quoi.
Une peau bronzée, en tout cas. Il faut être un peu bronzé, parce que sinon, voilà, c'est pas crédible. D'accord ? Donc, voilà, c'est des choses comme ça qu'il va dire. Et puis, le grand remplacement, voilà, qui est aussi mis en avant, qui a été cité par le terroriste là, qui a tué à Christchurch 50 musulmans, mais on n'a pas le droit de faire le rapprochement. C'est-à-dire que quand un musulman dit « moi, j'ai rien à voir avec les terroristes », qu'est-ce qu'on lui dit en général quand on fait partie de la droite ou d'une certaine droite? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Oui, mais c'est dans vos textes. Donc, même si, donc vous devez condamner. Et la même chose qui était demandée à ces gens-là, oui, mais ça vient quand même d'un texte de remplacement que vous défendez, Éric Zemmour. Oh, moi, j'ai rien à voir. Et puis, Renaud Camus a jamais dit qu'il fallait tuer des gens, etc., etc. On continue. Après cette séquence qui a beaucoup fait parler, voilà, qui a beaucoup fait parler dans les médias, où on était en train de dire est-ce qu'il faut encore faire parler Éric Zemmour ou est-ce qu'il faut arrêter de le faire parler, surtout qu'elle a été condamnée deux fois pour incitation à la haine raciale et religieuse. Eh ben non, quand on est condamné à la haine raciale et religieuse et que c'est pour les musulmans, qu'est-ce qu'on fait quelques jours plus tard? Hop, on a une émission de télé sur CNews, petite promotion, donc c'est sympa. Le Figaro qui lui a tiré les oreilles quand même. Parce que le Figaro lui a dit « Attention, c'est pas bien, mais tu peux continuer chez nous. » RTL qui a dit « Attention, c'est pas bien, tu seras plus chroniqueur régulier, mais on t'invitera souvent, t'inquiète pas, etc. etc. » Paris Première, c'est pareil. Éric Nolot qui lui a fait les gros yeux dans le début de l'émission « C'est pas bien ce que t'as dit, c'est indigne, c'est pas de ton niveau. Franchement, comparer l'islam et le nazisme, c'est vraiment les chiottes de l'histoire de la... C'est vraiment, t'es nul de chez nul, t'es un raciste, tout ça. » Mais on peut continuer à discuter. Allez, on continue.
Mais ça, à la limite, que... Alors moi, je n'ai pas regardé la vidéo entre Nolot et Zemmour, mais si Nolot a envie de continuer à discuter avec Zemmour, argument contre argument, au contraire, ça peut peut-être apporter quelque chose au débat. Je n'ai pas regardé la vidéo.
Je vois ce que tu veux dire. Je m'inscris en vous parce que c'est ce qui est dit par la plupart des gens. Sauf que, soyons honnêtes, Julien, là, il a dit des propos sur les musulmans. Il a été condamné. D'ailleurs, il y a le tribunal qui s'est auto-saisi par rapport à ce qu'il avait dit pour incitation à la haine religieuse, etc. Et c'est le même procès qui avait été fait à Dieudonné. Ouais. C'est pas un humoriste. Quand il parle des juifs, il pense vraiment ce qu'il dit. Lui, il avait pu se dire que c'était par rapport à ce qu'il disait, que c'était de l'humour. C'était de l'humour. Je suis pas antisémite. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Mais s'il avait été confirmé qu'il était antisémite, bah, personne ne l'aurait invité. Parce qu'on dit non, mais franchement, inviter un antisémite pour venir répandre sa haine des juifs, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, moi, je suis d'accord. C'est pas la peine. Si il est confirmé que c'est un antisémite et qu'il dit que ça. Là, le mec. On dit, c'est-à-dire que,
deux poids, deux mesures, ça
deux poids, deux mesures, c'est ce qui a été dit. D'ailleurs, pourquoi Dieudonné est condamné, lui, on l'invite plus, et on justifie de ne pas l'inviter parce qu'il est condamné et que c'est vraiment un antisémite.
Alors qu'il fait de l'humour.
Alors qu'il fait de l'humour, lui, c'est ce qu'il dit, en tout cas, faire de l'humour. Alors que lui, c'est un homme politique, éditorialiste, polémiste, qui dit vraiment des faits anti-musulmans, qui a été condamné pour ça, mais on l'invite quand même parce que c'est important de débattre avec lui. Ces mêmes personnes, s'il y avait un nazi en face d'eux, s'il y avait quelqu'un qui avait des idées nazies et qui voulait les défendre à la télé, il n'y a aucune personne en France qui accepterait de débattre avec un nazi. Conclusion, on peut en déduire que finalement, c'est grave ce qu'il a dit, mais quand même, ce n'est pas si grave. C'est encore acceptable. Il faut juste le combattre sur le plan des idées. On continue. Quelques jours plus tard, attentat à la préfecture de Paris par un converti à l'islam, Michael Harpon. Pas de blague sur le nom de famille, parce que c'était une attaque au couteau. Le lendemain de l'attaque, parce que j'ai vu certaines personnes faire des blagues sur Twitter, etc. Voilà. Parce que, ils ont après tout, on pourrait leur dire, vous avez le droit de faire des blagues même sur des attentats. Quand il y a eu les attentats de Charlie, tout le monde a dit liberté d'expression. On peut faire de l'humour, c'est pour justement faire un peu tomber la pression, etc., détourner l'attention. Voilà, moi, je ne me permets pas ça. Le lendemain de l'attaque, Castaner est sur la sellette. Vous vous souvenez? On parle de démission de Castaner. Il a fait une déclaration, il a dissimulé des informations alors qu'il en avait. Des bourdes en cascade, mauvaise organisation des services de l'État. Voilà, Castaner, vraiment, il était à un poil. On s'est dit, c'est bon, là, il a perdu son boulot, il est en train de faire ses bagages. Il a appelé sa femme pour lui dire, fais-moi une raclette ce soir, je vais pouvoir manger à la maison. Hein, ça fait longtemps que je ne peux pas rentrer. Oui, c'est de mauvais goût.
Oui,
c'est
parce
pas
que
grave.
La raclette, il y a du jambon, donc il y a du porc. Ça que tu...
Ah non, pas du tout. Attention. Ah, comment t'as interprété ça? C'est marrant.
On parle
non, moi, justement, j'étais plus sur le côté, c'est sa femme qui lui fait à manger de la raclette, à manger. Quoi. Sa femme qui l'attend chez lui, de très mauvais goût. Et toi, t'as... Ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Voilà. Ils ont réussi à nous mettre ça dans la tête, hein, tu te rends compte? Bon, bref. Alors, après la phase, toujours en cours des gilets jaunes où la police a été très contestée, ou encore les répressions des manifs là, écolo qui étaient pacifistes, où la police a encore été mise en cause, et notamment on leur reprochait aux policiers de suivre les ordres du ministère de l'Intérieur. Voilà, hop, 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 Castaner sort de sa poche le thème ultime comme un magicien qui détourne l'attention du spectateur en agitant un bras. Il agite le bras droit. Non, n'y voyez aucune connotation historique. Il agite le bras droit et du bras gauche, il vous fait les poches. Hop, ni vu ni connu. Commentant le fait que Harpon, là, Michael Harpon, était un radicalisé musulman infiltré en quelque sorte dans la préfecture, il nous dit le lendemain de l'attaque devant la commission de l'Assemblée nationale qui veut savoir quand même ce qui s'est passé. Comment ça, un mec qui rentre avec un couteau dans un des endroits les plus sécurisés de France, c'est la préfecture, en plus c'est le service des renseignements. Et extrait numéro 1, voilà ce que répond Castaner.
Parmi ces signes qui doivent être relevés, une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe. Le port de la barbe.
Voilà, donc il va lister toute une liste, excusez-moi de la redondance, il va lister donc toute une série de choses qui permettent ou qui permettraient de dire qu'un musulman est radicalisé. J'ai pas mis l'extrait en entier, mais il dit beaucoup de choses. Il dit, un, le port de la barbe. Deux, le fait ou pas de faire la bise ou d'arrêter de faire la bise. Trois, il va également dire le fait de vouloir travailler avec une collègue femme ou pas. Quatre, une pratique de la religion, surtout pendant le Ramadan. Donc, une pratique rigoriste de la religion, surtout pendant le Ramadan. Donc, vous vous rendez compte que alors, il est 17h30, chers auditrices, chers auditeurs, mais pour pas couper le propos, je vous propose d'écouter le Flash Actu juste après notre décryptage. Voilà. Excusez-nous pour le petit retard. Comme ça, on peut terminer la chronique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit justement des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il nous dit une pratique exacerbée de la prière, par exemple, pendant le ramadan, c'est exactement ce que font tous les musulmans pratiquants. Parce que, par définition, le ramadan, c'est le nom d'un mois dont le but, c'est de faire plus de pratiques religieuses. Mmh. Donc, le fait de faire plus de pratiques religieuses pendant le ramadan, c'est le fait de musulmans pratiquants. Je dis bien pratiquants, parce qu'on peut être musulman et pas être pratiquant. Il y en a qui sont musulmans, qui ne font pas la prière, qui ne font pas forcément le ramadan, etc., etc. Mais en tout cas, des musulmans pratiquants, c'est-à-dire qui pratiquent la religion, eh bien, pendant le ramadan, c'est une pratique qui est supplémentaire à ce qui se fait d'habitude. Voilà, on peut renvoyer les auditeurs, les auditrices aux textes religieux de base, voilà, qui disent tout ça, qui expliquent tout ça très bien. Et avec des pratiques religieuses, le port de la barbe, alors je précise pour les auditeurs et les auditrices, effectivement, il y a des textes religieux, c'est pas dans le Coran, hein, mais il y a des textes religieux dans lesquels il y a des recommandations pour les musulmans à porter une barbe. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est plutôt contextuel. C'est-à-dire qu'à l'époque, au 7e siècle, la barbe était comme un signe de ralliement entre des musulmans, au contraire d'autres qui n'étaient pas musulmans et qui, eux, rasaient leur barbe et laissaient pousser la moustache. Voilà, c'est un truc contextuel parce que les musulmans, entre eux, se reconnaissaient. Ils étaient une minorité et c'était également, voilà, comme le fait de porter une croix pour marquer son appartenance, etc., etc. Mais bon, en tout cas, c'est-à-dire que c'est justifié. On peut porter la barbe, par exemple, et ça peut être religieux. Effectivement, ça peut être une marque de religiosité. Mais ça peut être une marque de religiosité classique d'un musulman qui, pour respecter ou pour faire comme le prophète, bah, il porte la barbe. Mais ce n'est pas parce qu'on porte la barbe qu'on est radicalisé. Donc, deux choses qui peuvent concerner un musulman pratiquant normal. Mmh. Et il va mélanger ça dans sa liste, dans son énumération, avec des choses qui n'ont rien à voir. Le fait de refuser de faire équipe avec une femme. Ah oui, mais ça, c'est différent. Parce que le fait de refuser de faire équipe avec une femme, c'est une discrimination claire. Et là, ça peut être un signe de radicalisation. Parce que qu'est-ce qui justifie que tu ne fasses pas équipe avec une femme, par exemple, dans la police? Ça, c'est inacceptable. Tu fais équipe avec les gens qu'il y a dans ton bureau. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Mais mélanger des choses les unes avec les autres, c'est un, créer la confusion et laisser croire aussi que des éléments d'une religiosité sont à mettre au même plan que des éléments de radicalisation ou d'extrémisme. On continue avec un deuxième extrait, puisque évidemment, une fois que Christophe Castaner a fait cette sortie, on pensait quand même que dans les médias, ça allait être repris un petit peu, mais qu'on allait quand même rester sur le fond de l'affaire. Est-ce que Christophe Castaner est responsable, a une responsabilité, de par son ministère, dans cette faillite de la sécurité nationale? Eh ben, de quoi on va parler, notamment dans les médias et dans les chaînes d'infos? Premier exemple, CNews.
C'est pas la barbe de Christophe Castaner non. qui fait sens. Comme vous, c'est pas la mienne qui fait sens. Mais effectivement, quand vous avez des individus dans des services de l'État qui manifestement ont, c'est ce qu'a voulu dire Christophe Castaner, j'imagine, une barbe signifiante, bah ça peut alerter.
La langue française est une belle langue, des barbes signifiantes. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Alors, ce qu'il nous dit, Pascal Praud, sur CNews, il essaye d'interpréter ce que dit Castaner. Parce que Castaner, il a été un peu tensé par un député La République En Marche, ex-La République En Marche, qui lui a dit « Ouais, mais si la barbe, c'est un signe de radicalisation, c'est n'importe quoi. Vous, monsieur Castaner, vous portez une barbe. » Et du coup, il y en a qui ont dit « Ah, c'est de l'ironie, c'est pourri. On sait très bien que ce n'est pas ces barbes-là qui parlent. » Et c'est ce que Pascal Praud, qui lui aussi a une barbe, du coup, ouais. ben, ils sont en train de dire « Mais bon, eh oh, c'est pas nos barbes à nous dont on parle, c'est les barbes des musulmans. » D'accord ? Vous comprenez ?
Mais vas-y. c'est déjà très grave d'en arriver à interpréter les propos du ministre
oui,
de l'Intérieur.
Oui. C'est-à-dire
que, ça veut dire que le gars n'a pas été clair.
Oui, c'est pas très clair, effectivement. Et on en arrive à parler sur les signes de radicalisation et à faire des émissions sur la barbe. Non mais, mes amis, là, il faut qu'on se réveille en France, là. On fait des émissions sur la barbe. Est-ce que la barbe, en fait, c'est un signe de radicalisation qui va faire tomber le pays dans le chaos ? Alors, je me dis, bon, c'est news. Ils viennent d'embaucher Zemmour. Peut-être qu'ils sont dans une pente... Voilà, sensationnaliste, ils essayent de faire un petit peu de buzz. Du coup, je vais sur BFM TV. Je me suis dit, BFM, eux, ils sont super. Et ce jour-là, ils invitent Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, chantre de la liberté d'expression. Puisqu'il n'y a pas plus il y a les meilleurs de la liberté d'expression chez Charlie Hebdo. Et après, tu ne peux pas tester. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il dit, Philippe Val ?
Vaut mieux se gourer un peu dans un signalement qui n'est pas une accusation. Le type va pas être arrêté ou la femme va pas être arrêtée et déportée dans un goulag. On va juste faire une petite enquête pour voir.
Ah bon, Philippe Val ? En fait, c'est pas grave, parce qu'il faut signaler les gens qui sont radicalisés. Mais comme dit Philippe Val, ancien chantre de la liberté d'expression, mais non, mais franchement, la liberté, c'est bien. Mais un musulman, s'il a une petite barbe un peu signifiante, je cherche toujours dans le dictionnaire la, à la page S, mais l'Académie française, ils sont pas tranchants encore. S'il a une barbe signifiante, on peut le signaler. Et du coup, c'est pas très grave. Il va aller en garde à vue, on va faire quelques petites vérifications, on va pas l'emmener au goulag quand même. Ça me rappelle un des arguments de Philippe de Villiers il y a quelques années, quand on lui avait dit qu'il y avait du racisme, notamment contre les Noirs en France. Il avait dit « Oh, c'est bon quand même, en Russie, les Noirs, ils sont tués.
» D'accord.
Ah bah ouais, donc, comme ils sont donc tués en Russie, qu'est-ce que vous avez, les Noirs de France, à vous plaindre parce qu'on vous laisse pas rentrer en boîte? Franchement, vous abusez, là, les Noirs de France. Qu'est-ce que vous avez à vous plaindre parce qu'on vous donne pas de logement et qu'on vous donne pas de travail? Au moins, on vous tue pas. Bref, je ferme la parenthèse. Je me dis « C'est news, barbe signifiante. » Philippe Val, quand même, si vous vous faites contrôler les musulmans, c'est juste pour vérifier. Si y a une petite erreur de temps en temps, ça veut dire qu'il n'y aura pas trop d'erreurs. Hein. Souvent, quand vous serez signalé, ce sera pour la bonne raison. On va sur LCI. Geoffrey Lejeune, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. C'est mon magazine de chevet. Qu'est-ce qu'il dit ? On écoute.
Il y a un tiers des musulmans de France, je ne dis pas des islamistes de France, je dis des musulmans de France, qui considèrent que la charia est au-dessus des lois de la République. Ça veut dire qu'il faut une vigilance et une méfiance et un scepticisme vis-à-vis de 30% de la population des musulmans de France.
T'as compris ce que je veux dire ou pas ? 30% de la... Alors ça, c'est par rapport à un sondage qui avait fait beaucoup de bruit. Alors moi, vous connaissez mon avis sur les sondages. Allez demander à 150 personnes ou même 1000 personnes avec des échantillons représentatifs et faire dire en conclusion de 4, 5 ou 6 millions de musulmans que sur ces 1000 qui ont dit là, il y en a 30 qui pensent que la charia, c'est plus important. D'ailleurs, c'était chez les jeunes, 18-25 ans, que la charia est plus importante que la loi de la République. Conclusion, 30% des musulmans sont suspects de vouloir mettre la charia au-dessus des lois de la République. Donc, 30% des musulmans de France, il faut les surveiller. Sauf que Geoffrey Lejeune, qui a un bac en islam plus 6 ou 7, lui, il sait faire la différence entre les 30% et les 70%. Donc, il va surveiller que 30% des musulmans. Et les 70%, il va les laisser tranquilles, pépères, etc. Bon, en gros, lui, musulman, égale surveillance. Bon, après, on quitte la télé pour aller en radio. Europe 1. Là, c'est Trévidic. Marc Trévidic, un ancien juge antiterroriste, qui lui va nous donner... ça m'a fait sourire, hein, mais bon, bref. Qui va nous dire comment on fait, en fait, Castaner, il se casse la tête, là. Comment vous faites si vous voulez savoir si quelqu'un est radicalisé? Eh bien, lui, il a la solution miracle.
Le principal conseil pour détecter la radicalisation, c'est mettre deux personnes de sexe différent dans la même salle. Ça reste la méthode la mieux.
Alors, mettre deux personnes de sexe différent dans la même salle, moi, même si je suis radicalisé, il y a une petite tentation, là. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, Trévidic ? Voilà, c'est que, par exemple, les radicalisés auraient tellement peur des femmes que tu les mets dans une salle avec une femme. Alors, je sais pas, si tu mets un musulman dans une salle avec une femme et qui commence à suer, Et à chercher un coin pour s'éloigner dans la salle et qui commence à se gratter la barbe signifiante. C'est que là, il y a un truc qui se passe.
Ça veut dire qu'il faut l'embarquer.
Il faut l'embarquer, là. Faut l'embarquer. Attention, il faut se méfier. Ouais. Hein. Il doit avoir un couteau en céramique dans la poche. En tout cas, voilà, c'est ce que nous dit M. Trévidic. Avec qui, pour qui on a tout le respect, juge antiterroriste et tout, qui a travaillé sur les questions. C'est pas ça le problème. C'est juste l'argument qu'il donne, sans le développer, paraît tellement aberrant que ça passe comme ça.
Alors, j'interviens juste deux secondes, parce que là, en fait, il parle pas des musulmans, là, il parle des paumés qui interprètent l'islam à leur manière pour donner un sens à leur vie en se donnant droit de vie et de mort sur les gens.
Oui, mais même si c'est des extrémistes, tu pourrais citer tous ceux qui ont fait des attentats là récemment, tu les mets dans une salle avec une femme, ça ne va absolument rien t'apporter sur ce qu'est la personne.
En plus, c'est idiot.
C'est vraiment idiot comme raisonnement, en tout cas.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est interrogé sur des musulmans et qu'en fait, il dévie lui aussi, alors que lui, c'est un spécialiste.
Exactement.
Et lui aussi, il se permet de faire l'amalgame.
Parce que lui, il a des éléments.
Voilà.
Il pourrait dire, voilà, parler en longueur d'un processus de radicalisation. Ça nous intéresse. J'ai le cas de telle personne qui a été jugée, de telle personne. Je sais comment, par où c'est passé. Est-ce que c'est passé par Internet? Des gens sur le terrain. Ces gens sur le terrain, comment ils ont fait pour convaincre cette personne? Il les a, ces éléments. Ouais. Pourquoi ils ont besoin de nous parler de barbe signifiante ou de « je te mets avec, je sais pas, Kim Kardashian dans une salle, et si je te vois suer, c'est que t'es un islamiste.
Bon, après, vraiment... il répond aux questions qu'on lui pose.
Ouais, mais bon, voilà. Vous voulez un petit combo général ou pas? Allez, parce que j'ai pas le temps de tout citer, donc, allez, piste numéro 6. Là, c'est sur les barbes et qu'on sort tout ce qu'on a eu dans les médias.
Entre toutes les barbes, si j'ose dire, on peut discriminer. Lorsque les barbes sont préoccupantes, on les rapporte au personnage, à l'apparence, à l'attitude.
Donc à partir de ce moment-là, moi je serais partisan, si vous voulez, qu'on soit, comment dire, extrêmement radicaux avec eux, qu'on ne tolère plus aucun signe qui pour moi sont des défis à la République française, à la France tout court, c'est-à-dire les barbes, on en a parlé tout à l'heure dans les indispensables, les vêtements.
On a le droit de s'habiller comme on veut tant qu'on respecte l'ordre public et qu'on ne viole pas la loi, mais quand même, les vêtements nous indiquent aussi l'appartenance idéologique des individus.
Mais devant une boucherie halal et qui voit trois barbus et une femme voilée, appelle le numéro 1. Elle est là, la question.
Eric, là, c'est moi qui vais répondre. Non, faut arrêter avec ça. Les Français sont pas des imbéciles. Voilà. Les Français, c'est pas un peuple de délateurs. C'est absolument faux.
Dans le métro, j'ai été témoin d'une scène avec un homme qui portait une barbe préoccupante et qui, par son comportement, manifestait à quel point il détestait ceux qui l'entouraient.
Extrait en longueur que vous pouvez retrouver sur le site arretsurimage.net. Voilà, un extrait en longueur de 3 ou 4 minutes où eux, ils ont carrément rassemblé tout ce qui avait été dit sur cette question. Mais vous voyez la folie dans laquelle on est tombé. Des émissions de débat en train de parler de barbe signifiante, de barbe... C'est quoi une barbe préoccupante? Alors moi, je te pose la question, Julien. Une barbe préoccupante, pour moi, c'est une barbe en fait qui te regarde. La barbe, elle te regarde bizarrement. Elle a un couteau. Elle est en train de jouer avec son couteau devant toi. Ou une, je sais pas, elle a un truc, elle te dit « Hé, c'est une barbe préoccupante. T'as peur de moi ou pas ?» Voilà, la barbe devient une personne en fait. La barbe incarne quelqu'un. Oui, vas-y.
Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une amie qui vit en campagne, qui n'a pas du tout l'habitude de voir autre chose que des blancs. Mmh. Et on était sur Paris, on est rentré, parce qu'évidemment, il n'y a pas de train pour rentrer la nuit de Paris dans les Yvelines. Donc, on a pris le Noctilien. Et dans le Noctilien, à côté de nous, alors il y a toutes sortes de personnes dans le Noctilien. Et juste à côté de nous, sur l'autre siège, il y avait un monsieur qui faisait une sorte de prière et en se balançant un petit peu et collé contre son sac. Et la personne qui était avec moi m'a dit « il me fait peur parce qu'il récitait en fait en arabe ». Je veux juste te dire par là que, parce qu'il ne s'est rien passé dans le bus. Donc je veux juste te dire par là qu'en fait, on en arrive vraiment à avoir peur de tout.
De la parano.
Voilà, de la paranoïa, sans arrêt.
En même temps, un musulman qui récite un truc en arabe en tenant un sac, tu l'as cherché là, Julien. Bah... Non, bon, ok, c'était une blague.
Mais
blague.
Non, mais tu vois, et ça colle parce qu'il y avait absolument tout. Il était barbu, tous les éléments, il avait le sac, etc. Il ne s'est rien passé. Hein. Le gars faisait juste sa prière et rentrait chez lui. Après une grosse journée de travail.
Expérience très intéressante qui avait été faite avec des élèves d'une école primaire où on leur avait demandé de dessiner un terroriste. Et effectivement, barbe longue, mitraillette et tous les éléments que tu peux citer qui étaient déjà. C'est-à-dire que voilà, tout un travail qui a été fait aussi. Et toutes les images qui sont vues également. Alors quand tu cites les Ben Laden et compagnie, ouais. Tout ça, c'est des images qui ont marqué et qui ont dessiné un petit peu le terroriste, en tout cas... le terroriste idéal, entre guillemets, c'est-à-dire le terroriste tel qu'on peut l'imaginer.
Voilà. Oui, exactement.
Alors, du coup, tout ça en mélangeant les descriptions potentielles d'un musulman qui fait la ramadan assidûment, si tu mélanges cela, plus les 30% de valeur actuelle là, sur les trucs, plus les machins, les bidules, ça fait beaucoup de musulmans qui vont être suspectés d'être des radicaux. Alors, il faut poser la question, islamophobie ou anti-musulman? Et du coup, après cette séance, tout le monde a oublié les errements de Castaner sur les attentats, tous les problèmes de les RGI sont-ils infiltrés, quelle est la responsabilité du ministère de l'Intérieur, etc. Tout ça, hop, à la poubelle maintenant, on discute sur les barbes. Castaner, là, il respire, ouf, merci CNews, merci BFM, je suis tranquille. Bon, on termine avec une dernière séance. Vous avez tous entendu parler de cette femme voilée au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a été interpellée. Alors selon le positionnement que vous avez, vous allez dire agressée ou interpellée. Voilà, selon que vous soyez de plus vers la gauche ou vers la droite, vous allez dire interpellée ou agressée. Voilà, les termes sont plus forts selon votre positionnement politique. Mais bon, elle l'a été par un élu Rassemblement National. Et il y a une photo aussi qui a beaucoup circulé. On voit le fils qui pleure dans les bras de sa maman parce qu'elle l'accompagnait. C'est une accompagnatrice scolaire qui a accompagné son fils qui visitait le conseil régional pour découvrir les institutions démocratiques. Alors moi, j'aime pas rentrer dans les débats un peu émotionnel. Oh, c'est triste, un enfant qui pleure dans... C'est pas parce qu'un enfant pleure dans les bras de sa maman que l'image est révélatrice d'une vérité. Voilà. Ça, c'est vraiment le règne de l'émotion actuelle. C'est-à-dire, oh, l'enfant est pleuré dans les bras de sa maman. Bah oui, si t'es parent, si t'as des enfants ou pas, c'est des images qui peuvent t'émouvoir et tout ça. Mais je pense, à titre personnel, que c'est pas sur l'émotion qu'on doit prendre des décisions, surtout en politique et quand ça concerne l'avenir d'enfants, l'avenir, pardon, du pays. Bon, bref, on ferme cette parenthèse. En tout cas, l'image était marquante. Et du coup, le problème de l'école est devenu un problème de voile islamique et donc de personnes qui portent le voile pendant les sorties scolaires, les accompagnatrices notamment. Vous voyez où je veux en venir. Bon, sur LCI, Yves Tréhard dit qu'il est islamophobe, dans le sens de ceux qui disent que ça veut dire la haine de la religion, hein, pas des gens. Il va dire, par exemple, sur LCI, juste après cette histoire du voile...
Ça n'existe pas,
l'islamophobie. Mais vous,
moi,
vous
je tenez... déteste la religion.
Mais non, mais vous tenez très bien.
Ça n'existe pas, l'islamophobie. Moi, je déteste la religion musulmane. Bon, déjà, détester quelque chose pour quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui est plutôt, voilà, qui a une cinquantaine, soixantaine d'années, qui a eu le temps de rencontrer différentes personnes et tout ça, on peut dire que, voilà, on a... on n'est pas d'accord avec des principes, on débat sur des idéologies et tout ça, mais déjà dire détester ou haïr, il est tout sur le plan émotionnel. Voilà. Donc comment, c'est la question que je pose, détester la religion de quelqu'un, surtout quand ce quelqu'un, par exemple, qui est musulman ou chrétien ou juif, te dit que c'est quelque chose qui est très important pour lui, c'est ce qui est le plus cher, et toi, en tout cas, tu lui dis, je déteste ta religion, vraiment, toi... Le musulman, là, ta religion, c'est de la... Excusez-moi d'être vulgaire, c'est de la merde. Le truc des femmes et machin et bidule et tout ça. En plus, les attentats, c'est à cause de ta religion, etc., etc. On va manger un hamburger ? Hein ? Est-ce que c'est crédible, en fait, de décorréler à chaque fois une critique virulente, non pas une critique raisonnée, rationnelle ? Il y a plein de choses à dire sur les religions en général, sur la place des femmes dans les religions. OK, on peut discuter sur la violence qui serait inhérente aux religions, qu'on soit d'accord ou pas. On peut discuter, mais c'est des discussions qui peuvent être passionnantes, mais sur des faits, en appelant des historiens. On peut même faire voilà, des débats politiques, etc., etc. Mais dire détester, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu détestes... Je déteste Julien. Ah bah, et maintenant on discute. OK, bah super. Du coup, Tréhard, il va me conforter dans cette idée de dire que pour moi, quand il dit qu'il déteste la religion musulmane, eh ben, c'est pas loin de là, il est pas loin de aussi mettre les musulmans dans le même paquet que l'islam. Extrait, du coup, qu'on a passé.
Il m'est arrivé de prendre le bus, en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu.
Voilà. Alors c'est Jésus, parce qu'il est descendu d'un bateau. Comment il a fait pour descendre d'un bateau, parce qu'il a vu une femme voilée, non, blague à part. Du coup, c'est-à-dire qu'il fait bien la corrélation entre la religion et la personne qui la porte. Parce qu'il a vu une personne musulmane qu'il a reconnue par son voile, et ensuite il est descendu. Donc il y a eu une distanciation, pas avec la religion, il aurait pu dire « Ah, ça m'a gêné, j'ai pas aimé parce que j'aime pas », et lui carrément... J'ai pris une distance avec cette personne. Donc, cette personne serait venue me demander du travail, j'aurais pris une distance avec elle. Un logement, j'aurais pris... Voilà. Donc, il y a une vraie conséquence. Et enfin, on termine, parce qu'on est en retard, on termine en disant que cette femme qui est venue là dans le... Il lui prête des intentions politiques à cette femme qui est venue dans le conseil régional pour accompagner son enfant. Et comme il en est sûr qu'elle est venue avec des idées politiques, voilà ce qu'il dit.
Et j'aimerais d'ailleurs connaître l'histoire de cette femme, si cette femme ne fait pas de la provocation. Elle sait très bien ce qu'elle fait, cette femme. Hein. Peut-être que derrière, il y a des motivations qui sont des motivations.
Je suis en désaccord. Je suis...
Comment on peut être un homme intelligent et dire des bêtises pareilles ? Cette femme, je ne connais pas son histoire, mais elle est certainement venue avec des intentions. Bah oui, parce qu'elle n'est pas venue avec des intentions. Comment on peut questionner quelque chose en début de phrase ? Je ne connais pas son histoire, elle est peut-être venue avec des intentions, parce qu'il ne la connaît pas, et en même temps dire, bah si, forcément, elle est venue avec des intentions politiques. Donc même une femme que tu ne connais pas, avec qui tu n'as pas parlé, son voile suffit à la ranger dans la catégorie des « c'est une provocation politique ». Voilà. Pendant ce temps-là, ben, Jean-Michel Blanquer, qui était au fond du trou avec ses réformes, je rappelle, suicide d'une directrice d'école, Parcoursup qui est critiqué, la réforme de l'école maternelle, de l'école primaire qui est contestée, des profs qui n'en peuvent plus au bord du burn-out et tout ça, hop, tout ça, oublié, avec le voile des accompagnatrices. Alors, chers auditeurs, c'est étrange comme tous ceux qui se défendent en disant que l'islamophobie, c'est la critique de la religion, seulement la religion musulmane, ils en reviennent finalement à aussi montrer une détestation pour les représentants de cette religion, c'est-à-dire les musulmans eux-mêmes. Voilà donc pour cette grosse partie sur l'islam. Vous pouvez réagir hein, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à réagir sur le site internet. Mais bien sûr, restons courtois. Voilà, avancez des idées et pas uniquement voilà, des choses, des détestations, j'aime pas, etc. etc. Caroline, je sais que la transition n'est pas facile, mais tu vas nous parler de numérique. Oh, tu peux rigoler.
Ok.
Allez, on t'écoute.
D'accord. Caroline. Merci pour la prise de parole, Nouradine. Eh bien, oui, je vais vous parler du plan de déploiement numérique scolaire. Alors, le vendredi 11 octobre 2019 a marqué clairement une nouvelle étape dans le développement numérique de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Je dirai Sky après dans ma chronique. Donc, en effet, le président du conseil départemental des Yvelines, le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines ont officialisé vendredi dernier le lancement du plan de déploiement numérique scolaire. Alors, en quoi consiste ce projet ? Alors, il est d'une ampleur sans précédent à l'échelle de l'agglomération. Ce projet inédit est à destination des écoles du premier degré. Il concerne donc les 28 000 élèves des écoles élémentaires et maternelles présents sur l'ensemble des 12 communes du territoire saint-quentinois. Alors, ce projet vise trois choses. La première, c'est favoriser l'innovation dans les apprentissages, notamment via la mise en place de solutions de projection interactive, l'usage de tablettes tactiles, la création d'espaces numériques de travail et l'utilisation de robots pédagogiques, entre autres. Alors, un deuxième objectif, c'est assurer la continuité du parcours de l'élève de la maternelle au collège. Et enfin, le dernier objectif, c'est renforcer les relations entre les parents et l'école. Alors, comment est financé ce projet ? Alors, ce projet, il a un budget total de 7,5 millions d'euros et il est financé par Saint-Quentin-en-Yvelines à hauteur de 20%, par les communes à hauteur de 30% et il engage 3,76 millions d'euros de subventions départementales, donc 50% du projet, par la signature de deux types de conventions. Donc il y a une convention cadre avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette convention permet de fixer la gouvernance, les modalités techniques et financières et la méthodologie de suivi et d'évaluation. Et 12 conventions de soutien avec chaque commune, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Yvelines numérique et l'éducation nationale. Alors ce programme d'investissement va durer 3 ans et à l'issue il y aura une évaluation du projet qui sera réalisée par l'ensemble des signataires. Alors, Yvelines Numérique est donc l'un des partenaires, c'est un opérateur numérique, et il va proposer via une centrale d'achat le matériel adéquat, donc tous les matériaux numériques innovants pour toutes ces écoles élémentaires et ces maternelles. Sa centrale d'achat va permettre justement donc cette distribution de matériaux informatiques à des conditions économiques avantageuses. Et il va aussi assurer, permettre en tout cas, la formation des enseignants à partir de novembre 2019 à justement ces nouveaux outils pédagogiques à destination des plus petits et en maternelle et en école élémentaire. Alors il faut savoir que ce plan numérique scolaire est la continuité du plan numérique, on va dire, dans le secondaire, dans le collège, qui a été lancé en 2015. Alors, un petit mot de certains des acteurs de ce plan numérique. Antoine Destrait, donc le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, dit que c'est un projet unique en France. Je n'en ai jamais vu de cette ampleur ailleurs. Il rappelle que le numérique n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de maîtriser des apprentissages fondamentaux en écriture, en lecture, en mathématiques. Une autre citation, Jean-Michel Fourgous, donc le président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc Jean-Michel Fourgous, le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, dit que ce déploiement des outils numériques à l'école est expérimenté depuis plusieurs années dans sa ville à Élancourt et doit permettre de développer l'autonomie et la confiance en soi chez les enfants. Enfin, il ajoute aussi que ce plan doit servir d'exemple, puisque on forme, avec ce plan numérique, on forme les élèves à être employables dans le futur. Il ajoute que l'an dernier, par exemple, il y a eu 10 000 offres d'emploi dans le numérique à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui, pour certaines, n'ont pas été pourvues. Donc cette convention est un exemple, et elle pourrait être ouverte à d'autres intercommunalités urbaines ou rurales, notamment dit Pierre Bédier, le président du conseil départemental.
Merci Caroline pour ces précisions. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actu yvelinoise. Ouais. Allez, sans transition, le flash actu de Julien Mathieu.
Et on commence avec un état des lieux concernant les municipales de Trappe. La bataille pour les élections a bel et bien commencé. À droite, Othman Nasrou vient d'être rallié par Mustapha Larbaoui. À gauche, le maire en place, Guy Malandin, brigue un nouveau mandat, accompagné de sa première adjointe, Janine Marie. Ali Rabet, adjoint de Guy Malandin au sport et à la jeunesse, a quant à lui officialisé la semaine dernière sa candidature. Je vous renvoie à ce propos aux interviews de Ali Rabet et Othman Nasrou par Noradine sur notre antenne. Pour les retrouver, il suffit de se rendre sur le site internet de la radio, marmitefm.canalblog.com, dans la rubrique micro ouvert. Les interviews avec les autres candidats arrivent très vite. Et puis, toujours à gauche, un nouveau parti est venu s'ajouter dans la campagne. Il s'agit du Parti ouvrier indépendant démocratique. Le groupe se réunit tous les samedis à la poste centrale, rue Léo Lagrange, pour discuter et collecter de nouveaux noms sur la liste. L'un des initiateurs, Bertrand Deveau, a d'ailleurs assuré qu'une convergence serait possible avec un autre parti qui se reconnaîtrait dans les idées du parti ouvrier. Autre information, un an après la ferveur populaire engendrée par la Ryder Cup, le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines à Guyancourt va à nouveau accueillir une épreuve internationale. Il s'agit de l'Open de France qui va se dérouler du 17 au 20 octobre. Et puis, chers auditeurs, si vous souhaitez donner votre sang, rendez-vous à Trappe le vendredi 18 octobre à l'Hôtel de Ville entre 10h et 15h, ou bien à Élancourt le même jour à l'Hôtel de Ville entre 9h et 20h. Côté sport, pour terminer, en rugby, en Fédéral 2, pour la quatrième journée, Plaisir s'en sort à Gennevilliers en faisant match nul 20 à 20. Les Plaisirois sont à la 9e place au milieu du tableau. Pour le moment, ils n'ont gagné qu'un seul match. En basket, en National 3, Trappe s'est imposé 84 à 63 contre Rueil ce week-end. Et puis les Rois du Relais sont yvelinois. Ce week-end, lors de la Coupe de France, Versailles a réussi le doublé historique avec le sacre de leur cadette et de leur junior en 4 fois 1000 mètres. Quant à l'équipe de Saint-Quentin en Yvelines, eh bien, elle est parvenue à obtenir l'or aux 4 fois 100 mètres ainsi que aux 4 fois 200 mètres.
Merci Julien pour cette chronique actu. On n'aura pas le temps de vous diffuser la chronique de Chloé, dont le thème était comment bien conserver ses aliments. Ben, on va mettre cette chronique au frais. On la conserve jusqu'à la semaine prochaine. Vous pourrez l'écouter en direct entre 17h et 18h. Le prochain direct, c'est ce soir, 20h, l'Antisèche. Julien et ses chroniqueurs qui vont encore vous faire passer une heure de folie. N'hésitez pas, 20h, 88.4. Merci à Julien, à la technique. Merci à Caroline et on se retrouve la semaine prochaine.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.